le club de la presse d'Europe 1. 19h-20h, Nicolas Poincaré.
En direct jusqu'à 20h, le club de la presse, c'est pendant près d'une heure un invité face à trois grandes signatures d'Europe 1. Et ce soir, l'invité, c'est l'un des romanciers français les plus lus dans le monde. Bonsoir Bernard Werber.
Bonsoir.
Auteur notamment de la trilogie des fourmis, vous avez vendu plus de 30 millions de romans, un chiffre à faire pâlir de jalousie tous les écrivains, y compris ceux qui ont reçu cette semaine les prix Goncourt ou Renaudot. Les prix littéraires ont donc été décernés. Vous nous direz si vous êtes jaloux de leur prestige. Vous publiez votre 21e roman, Le Sixième Sommeil, chez Albin Michel. On va plonger avec vous dans cet univers du sommeil. On passe un tiers de sa vie à dormir et vous nous faites découvrir que c'est tout sauf du temps perdu. Vous allez nous expliquer comment les rêves nous nettoient le cerveau, comment les cauchemars servent aussi à nous préparer au pire. On parlera des 5 stades du sommeil que l'on connaît bien et de ce 6e sommeil que vous avez apparemment un peu inventé. Pour vous interroger ce soir, donc, trois grandes voix d'Europe 1, Ève Roger, Philippe Gildas et Robert Namias. Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir.
Bernard Werber, vous avez presque déjà répondu, mais redites-le-moi. Quand vous voyez toutes les caméras qui s'agglutinent comme ça un mercredi autour du lauréat, le vainqueur du Goncourt, un écrivain qui d'un seul coup passe, acquiert une très très grande notoriété, qu'est-ce que vous dites à ce moment-là ?
D'abord, je trouve que c'est très bien qu'il y ait le système des... tout d'un coup de la saison littéraire, c'est-à-dire que tout d'un coup on se met à parler des livres et que ça fasse les couvertures des journaux et les ouvertures des émissions de télévision. Donc c'est bon pour la cause littéraire. Plus il y aura de lecteurs dans le monde, plus le monde sera intelligent et moins il y aura de dictature et il y aura de manipulation. Donc il faut que les gens lisent. Après maintenant, les prix littéraires, ça donne surtout l'avantage à ceux qui font du style. Moi, je suis plus intéressé par le fond que par la forme. C'est-à-dire, je ne vais pas faire des phrases très très longues avec plein de mots de vocabulaire pour faire joli ou poétique. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir l'histoire la plus forte et la plus prenante. Je crois qu'il y a deux littératures en France, une littérature de forme et une littérature de fond. Moi, je privilégie le fond, donc la qualité de l'histoire. Et la forme, c'est ensuite qu'elle s'ajoute. Évidemment, l'idéal, c'est d'avoir les deux. Mais pour l'instant, je trouve que quand on a une bonne histoire, c'est si on a un bon squelette. Et la forme, c'est juste la peau. Donc c'est ce qu'on voit à l'extérieur.
Il
ne
peut pas y avoir de récompense, il ne peut pas y avoir de prix pour un auteur comme vous.
Pour nous, non. Il faut dire qu'en France, on considère que l'imaginaire, c'est quelque chose qui est réservé pour les jeunes ou pour l'étranger. On n'a pas de culture de la littérature imaginaire. Et même Jules Verne, à son époque, en souffrait énormément. Il ne comprenait pas pourquoi il n'était pas lu, pourquoi il n'était pas estimé. Alors qu'en fait, c'est l'imaginaire en général et la vision du futur qui, en France, est très mal vue. On considère, on préférera les livres qui parlent du passé ou du présent, mais pas du futur. Le futur, ça fait peur.
L'imaginaire, c'est ce que vous appelez la science-fiction ?
C'est le fantastique, la science-fiction, par moments... tout ce qui sort des idées qui ne sont pas du réel. Dès le moment où l'auteur ne raconte pas son nombril ou les aventures de ses voyages ou les filles avec qui elle couche, on va dire quelque part, on est dans l'imaginaire.
Robert Namias.
Je suis un peu choqué par ce que vous venez de dire sur le fait qu'il y a deux littératures, celle de la forme et celle du fond. Est-ce qu'il n'y a pas qu'une seule littérature, la bonne ? L'autre, ben voilà, je sais pas comment on peut l'appeler, la mauvaise. Et effectivement, est-ce que tous les grands auteurs, finalement, n'ont pas à la fois allié le style et en même temps le fond? On pourrait vous en citer 50, vous le savez très bien d'ailleurs.
Il y a une répartition, c'est-à-dire soit vous avez du 60-40, soit vous avez du 70-30, mais il y a forcément un effort qui est mis plutôt sur la qualité du squelette ou sur la qualité de la peau. On ne peut pas avoir 50-50 pile. Maintenant, il y a des auteurs, pour moi Jules Verne est un auteur qui a en même temps le fond et la forme, mais à son époque, parce qu'il y avait une histoire, parce qu'il parlait de voyage, parce qu'il parlait de technologie, parce qu'il parlait du futur, il était considéré comme un auteur qui n'était pas un auteur classique, donc pas un auteur qui pouvait rentrer à l'Académie française, ce qui l'a énormément fait souffrir, et moi je considère qu'il s'est trompé, il aurait dû au contraire assumer son statut qui est un statut d'auteur populaire.
Mais vous, ça vous fait pas souffrir.
Non, moi c'est un choix. Mon éditeur m'a dit...
Non, c'est un choix, mais en même temps votre éditeur a dû vous dire que quand on sort 3 livres sur le même sujet, avec les fourmis, ayant raté le premier, les Goncourt, ils peuvent pas revenir derrière.
Oui, c'est le problème aussi, c'est pour ça que je laisse je veux dire, le pompon du Goncourt à d'autres. C'est-à-dire, le problème du Goncourt, c'est que souvent, on a les projecteurs une seule année sur soi, et puis après, ils disparaissent. Et la plupart des Goncourt, on s'en rappelle même plus de ce qu'ils ont fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt un travail de marathon, c'est-à-dire chaque année, sortir un livre dans lequel je travaille énormément, et j'essaie de faire le meilleur livre. Vous savez, notre métier, un métier d'artisanat. on se retrouve comme des horlogers à mettre des petits rouages, et après on a envie que ça fonctionne, que ça tourne. Mais l'aspect extérieur de l'horloge est un élément. Ce qui m'intéresse surtout, c'est que l'horloge ne tombe jamais en panne.
Oui, moi je m'interroge sur quelle relation vous avez dans le milieu littéraire. Est-ce que vous avez des amis écrivains? Demain vous partez à Brive, je crois,
oui,
au Salon du Livre.
Mais on a fondé
vos seuls amis, ce sont juste les lecteurs?
Non, pas du tout. On a fondé un groupe qui s'appelle la Ligue de l'Imaginaire, qui réunit tous les auteurs qui parlent d'imaginaire. Mais justement, vu qu'on ne parle jamais de nous, on se retrouve entre nous à discuter de littérature.
Mais on les connaît ?
Oui, il y a Maxime Chattam, il y a Franck Thiez, il y a Mireille Calmel, il y a...
Giacometti.
Ah oui, c'est tous les auteurs dont vous n'entendez pas parler dans les émissions, mais par contre qui ont un public. Et c'est ça qui m'intéresse, de toute façon,
le public. Et ceux qui parlent de leur nombril et de leur coucherie, ce ne sont pas vos amis?
Si, j'en crois de temps en temps.
Eliette Abécassis, je crois que vous êtes amie avec Eliette Abécassis.
Oui, mais non, il y en a un qui raconte, fait des livres que sur ses coucheries et ses vies parisiennes, qui m'a dit à un moment, tu vois, moi je suis limité, chaque fois que j'ai terminé un livre où je raconte ma propre vie, je peux pas aller au-delà. Toi au moins, tu n'as pas de limite, puisque tu parles de choses qui n'existent pas. Donc vu que ça n'existe pas, tu peux parler de tout. Moi, je parle que de ma vie et elle est limitée.
Un mot seulement, c'est pourquoi est-ce que vous avez décidément feuilletonné vos romans? Au bon sens du mot feuilletonner, hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous en écrivez un, quand vous changez de sujet, on va prendre les dieux derrière, vous changez de sujet, vous en faites trois. Et vous revenez 2 ans plus tard et 3 ans plus tard.
Bah, vous feriez pareil si vous aviez les mêmes ventes, c'est bizarre, ça.
Ah non, il avait déjà vendu ses millions et ses millions là-bas. Il est plus lu par les Chinois et les Coréens que par les Français.
Je vais vous dire, le livre lui-même me donne sa taille. Au moment où j'écris le livre, je sais pas où je vais aller. Mais des fois, je m'aperçois que le truc fait 2000 pages. Je vais pas servir 2000 pages en roman. Donc je tronçonne en 3. Mais je crois qu'il y a un moment, les personnages vivent. L'histoire elle-même a besoin d'une taille. Maintenant, en France, on n'aime pas les nouvelles et on n'aime pas les sagas. Et c'est les deux endroits où je me sens bien, à savoir les nouvelles, parce que c'est rapide, ça se lit dans le métro, ça se lit dans le train, c'est un art. En plus, on peut pas tricher dans la nouvelle. Et la saga, parce qu'on crée un univers, et une fois qu'on l'a créé, on y est bien, et on donne rendez-vous au lecteur pour qu'il y revienne.
Vous continuez, ça vous réussit.
Merci.
Bernard Werber, auteur du 6e sommeil et l'invité du Club de la Presse, jusqu'à 20h, on revient après une pause.
Le Club de la Presse d'Europe 1.
Avec vous, Nicolas Poincaré, jusqu'à 20h.
Et avec l'écrivain, le romancier Bernard Werber, qui publie Le 6e sommeil. C'est son dernier roman. Il répond ce soir aux questions d'Ève Roger, de Philippe Gildas et de Robert Namias. Bernard Werber, ce qu'on apprend en vous lisant, c'est qu'il s'en passe des choses la nuit. On passe un tiers de sa vie donc à dormir. On pense que c'est du temps perdu et vous ne dites pas du tout.
Non seulement c'est pas du temps perdu, mais heureusement qu'on dort, sinon on deviendrait fou. Alors déjà, la première fonction du sommeil, c'est de faire un peu d'ordre dans notre cerveau. On vire toutes les informations qui nous semblent pas crédibles. En fait, ça fonctionne un peu comme l'ordinateur qu'on reboot. Ça enlève tout ce qui est mauvais et ça met en valeur tout ce qui est intéressant. Il y a des choses auxquelles vous n'avez pas fait attention dans votre journée qui vont vous être resservies sous forme de rêve par votre cerveau pour vous dire « Tiens, tu vas pouvoir utiliser ça ». Mais ce qui m'intéressait surtout dans le 6e sommeil, c'était de faire une sorte de livre d'initiation, de dire que la découverte du sommeil, c'est presque une zone spirituelle. Et mon héros, Jacqueline, en suivant sa mère et à travers ses différents périples, et en apprenant comment on dort bien, comment on maîtrise ses rêves et comment on arrive à faire du rêve lucide, en fait, il arrive à nettoyer sa vie et il arrive à atteindre une forme de spiritualité qui est une spiritualité très exotique, mais à partir du sommeil, quoi.
Oui, alors on va parler d'abord des choses qui vont mal. C'est-à-dire que dans le livre, vous dites bien que les Français dorment très mal et le livre nous donne quelques clés, disons, pour dormir mieux. Vous dites, on va apprendre à bien dormir à l'école. Et pourquoi en France, on dort si mal, quoi?
Ah, vaste sujet,
c'est pas plus que dans d'autres pays même.
Je pense qu'on est très inquiet. Peut-être qu'on est inquiet parce que les actualités nous envoient tout le temps des signaux d'alarme.
C'est notre faute.
Non, c'est pas votre faute. Mais si on écoute les actualités, tout va aller mal. Donc il y a un moment, il faut se déconnecter un peu de tout ça et de se dire, ok, il y a plein de choses qui vont pas bien. Il y a aussi des choses qui vont bien et on manque un peu d'optimisme et de positivisme. Mais c'est vrai que non seulement en France, on est l'un des pays où il y a le plus de problèmes de sommeil, mais c'est aussi un des pays où il y a le plus de consommation de somnifères. Et ça, c'est une grande erreur, parce que plus on prend de somnifères, plus on détruit la zone des rêves.
Alors vous, comment vous faites pour bien dormir?
Alors d'abord, je ne dors pas forcément toujours bien. Mais quand je ne dors pas bien, en tout cas, en écrivant le bouquin, je me suis appris à faire une chose toute simple, ça s'appelle le lâcher prise. Le lâcher prise, ça veut dire, si je regarde la petite tache au plafond durant toute la nuit, eh ben c'est pas grave. Et quand ça dure plus d'une heure, je vais prendre un livre, je vais aux toilettes pour pas réveiller ma compagne, et je lis le bouquin jusqu'à ce que mes paupières tombent.
Sur les toilettes.
Sur les toilettes, oui. Et je conseille ce système, mais ça m'a l'air un système en tout cas qui permet de préserver la vie, on dirait la politique interne dans l'appartement. Mais
le premier conseil, si j'entends bien, c'est de ne pas s'inquiéter du fait de ne pas dormir. Quoi.
De manière générale, le lâcher prise est la solution à beaucoup de problèmes.
Je voudrais qu'on rentre dans le monde des rêves, qui est quand même l'objet même de votre livre.
Oui.
D'abord, vous nous confirmez que tout le monde rêve, même si on a le sentiment parfois, en se réveillant le matin, que nous n'avions pas rêvé de la nuit. En réalité, on rêve, et on rêve même beaucoup. J'ai cru comprendre qu'il y avait en gros 5 phases de sommeil paradoxal, qui sont les phases du rêve.
Il y a 5 phases, et le dernier s'appelle la phase
et sommeil paradoxal. Et donc, ça veut dire qu'en gros, on rêve même 5 fois par nuit. On formalise Exactement. Des images, et on rêve des situations 5 fois par nuit. Tout le monde.
Alors, non, d'abord, on n'a pas les 5 descentes. L'idéal, l'idéal, c'est d'avoir une nuit de 8 heures avec.
Je connais personne.
Cinq. Peut-être les journalistes en ont un peu moins.
Ouais, mais il n'y a pas de journalistes.
5 descentes, c'est comme des plongées sous-marines où on descend toutes les 90 minutes et on reste à 10 minutes en phase où on récupère vraiment. C'est-à-dire le sommeil où vraiment on refait sa santé et on fait des rêves. Et c'est cette zone qui s'appelle le sommeil paradoxal. Et chez l'homme, ça se repère par l'érection. Donc c'est en plus une phase qui nous fait extrêmement...
On bande 5 fois par nuit, formidable.
On bande 5 fois par nuit. Et femmes, chez la femme, on le sait pas, on peut pas le repérer aussi facilement. Mais en tout cas, rêver est une activité qui nous fait énormément plaisir. Déjà, l'intérêt de dormir et de rêver, c'est de s'offrir des petits films qui nous plaisent et qui nous rendent heureux. Et c'est pour ça que se dire juste, je ferme les yeux et j'attends de récupérer comment on branche son téléphone en pensant que la batterie va se recharger, c'est vraiment limiter le pouvoir du sommeil qui nous fait énormément de choses.
Ceux qui nous écoutent, qui vont vous dire, mais moi je ne me souviens jamais de mes rêves. D'ailleurs, je ne rêve pas. Ils vous assurent qu'ils ne rêvent pas.
Alors il y a un truc très simple pour se rappeler de ses rêves. Ça consiste à poser un petit carnet avec un crayon sur sa table de chevet et de se dire juste avant de dormir, j'aimerais bien m'en rappeler demain matin. La première nuit, ça marchera peut-être pas. Mais la deuxième ou la troisième, au bout d'un moment, on va avoir la dernière image. C'est comme un film, la dernière petite séquence qu'on va pouvoir noter. Et là, progressivement, on va pouvoir récupérer la mémoire de ces rêves. Et souvent, ces rêves qui nous arrivent sous forme de délire ont une petite information à nous transmettre qui va nous aider.
Mais où est-ce que vous avez appris tout ça?
Vous n'êtes pas médecin, vous n'êtes pas psy.
J'étais journaliste scientifique, donc j'ai fait un grand dossier sur les rêves, sur le sommeil. Puis pour chaque livre, je fais ma documentation, donc je vais dans les laboratoires. Et surtout, je discute avec les spécialistes. Je leur demande qu'ils me racontent quel est leur quotidien. Je suis aussi allé discuter avec des grands insomniaques. Et puis moi-même, j'ai pratiqué le rêve lucide. Je note mes rêves. Et puis j'utilise la petite fonction.
Le rêve lucide, voilà. On va y revenir.
Parce que vous avez été cobaye pour votre livre. Et vous, il y a une chose qui est extraordinaire, c'est-à-dire que vous contrôlez comment vous rentrez dans chaque phase. Et une fois qu'on est endormi, comment on contrôle qu'on passe au sommeil lent jusqu'au sommeil paradoxal?
En fait, notre cerveau, il fait ce qu'on lui demande. Si vous lui dites, j'ai envie que ça se fasse phase par phase et que je le sente, il le fait. Notre cerveau a un énorme potentiel. Ben, au moment où on dort, on peut être lucide aussi. Ben, vous voulez qu'on parle de ça? Mais il suffit de décider de prendre de l'éveil à l'intérieur de son rêve et on le fait. Maintenant, il n'y aura jamais de vérification scientifique. Donc, c'est quelque chose à admettre.
Et physiquement, vous le sentez, vous?
Il me semble le sentir, mais je ne suis pas, je ne suis pas un scientifique, il n'y a pas de machine. Donc, moi, je peux raconter mon rêve, mais par contre, qui pourra vérifier si c'était bien ce rêve-là? Il y a une zone de flou. En fait, il n'y a pas de réelle certitude sur le monde du sommeil. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des changements de température, des changements d'activité électrique, et on peut voir des zones du cerveau qui s'allument et qui s'éteignent. On n'en est que là, mais c'est déjà pas mal.
C'est un roman, hein, faut le redire quand même.
Ah oui, c'est
un
roman. Vrai.
Mais ce qu'il nous raconte sur le bloc-notes, c'est pas du roman, ça, il le fait vraiment.
Non, mais c'est pour ceux qui ne sont pas au courant, ils vont croire qu'on a...
Ça m'intéresse beaucoup, l'histoire du bloc-notes. Alors, on se réveille. Dès le réveil, immédiatement, on essaye d'écrire ce qui nous vient, la dernière image du rêve qu'on vient de faire.
Oui.
Et progressivement, on va pouvoir se souvenir de mieux en mieux de ses rêves.
Exactement. Mais de toute façon, l'imaginaire, c'est un muscle. La capacité de mémoire, c'est un muscle. Et la mémoire des rêves est un muscle.
Au début, quand on commence, on ne se souvient que d'un rêve. C'est le dernier qu'on a fait. Et quand on progresse, qui est votre cas, on arrive à se souvenir de plusieurs rêves.
Maximum, c'est 3. Hein. Mais en général, j'arrive à me rappeler de 2 ou de 1. Puis il y a des fois où j'arrive pas à me rappeler.
Ce qui est plus étrange... Alors, est-ce scientifique? Est-ce que de la fiction? Est-ce du roman? Au fond, vous dites qu'on crée une partie de ses rêves, qu'on les provoque. qu'on les invente, ces rêves. On invente ces rêves, de même qu'on investit l'imaginaire dans le réel, et que une partie du réel est inventée par nous à partir de notre imaginaire. C'est bien ce que vous dites, non?
Oui, c'est plus précisément notre inconscient qui crée ce petit film. Et notre inconscient n'a pas de limite. Autant notre conscient, il a des règles, il est moral, il fait ce qu'il faut faire. Même, par exemple, les rêves, on les déforme le matin. Parce que les personnages changent parfois de tête, ou par moment, on change d'endroit, et c'est complètement chaotique. Et notre cerveau gauche n'aime pas ça. Alors le matin, quand il se rappelle de son rêve, il réécrit l'histoire en gardant un seul visage pour le personnage qui est le héros, et il refait un petit film. C'est-à-dire, nous avons tous une sorte de capacité de mise en scène automatique qui s'exerce le matin avec les rushs que fournissent les images de notre dernier rêve.
C'est une forme d'affirmation de la liberté, ce que vous dites. Vous dites au fond que, vous donnez plusieurs exemples, dont un très précis, c'est que on a la trouille de quelqu'un, on a peur d'une situation, on provoque des rêves et on crée des situations dans lesquelles on se trouve au contraire dans une situation inverse, qui est celle du héros qui se bat, qui gagne contre ce quelqu'un, qui vainc cette situation.
Exactement.
Et finalement, après, on se réveille et on est dans la situation et dans la capacité, effectivement, d'être le gagnant de l'histoire.
On s'est aperçu, par exemple, que
les lâches deviennent courageux, quoi.
La plupart des femmes enceintes faisaient le même cauchemar, qui est celui de la perte de leur enfant. Et on se demandait pourquoi elles rêvaient de ça. Et en fait, elles rêvent de ça parce que si ça arrive, elles auront déjà vécu émotionnellement en rêve la situation, et donc elles seront mieux préparées à la gérer. De même, moi, je rêvais tout le temps que j'échouais dans mes examens. Et c'était une manière d'exorciser ça. Bon, j'ai échoué.
Finalement, vous avez échoué, ça.
Des fois où ça. Mais c'est comme si. C'est pour ça que les gens ne doivent pas avoir peur des cauchemars. Les cauchemars servent à nous préparer à gérer émotionnellement les événements.
On apprend à rêver ce soir dans le Club de la Presse d'Europe avec Bernard Werber, auteur du 6e sommeil. À tout de suite après une seconde pause.
Le Club de la Presse d'Europe 1. 19h-20h, Nicolas Poincaré.
Et le Club de la Presse d'Europe 1 est très heureux de recevoir ce soir Bernard Werber, romancier, auteur du 6e sommeil chez Albin Michel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous nous racontez donc, Bernard Werber, toutes les phases du sommeil. La 6e, c'est celle que vous avez inventée qui permet de se déplacer dans le temps. On est un peu dans le délire. Les 5, on va en parler, mais les 5 précédentes, elles sont tout à fait fascinantes. Notamment ce que vous appelez le sommeil lucide et avant le sommeil accompagné. C'est quoi le sommeil accompagné?
Le rêve, pardon.
Non, d'abord je voulais dire le stade 4, pour se repérer, c'est le stade où on se retrouve tout nu dans la ville. Je ne sais pas si vous avez déjà fait
tout le monde a fait ce rêve.
Ce rêve, voilà. Donc c'est un peu gênant, mais en même temps, ça a un sens. Et le stade 4, c'est aussi celui où on est poursuivi par une entité dangereuse, on ne sait pas ce que c'est, mais qui nous crée une menace. Le stade 5, donc le sommeil paradoxal, c'est celui où on va résoudre les problèmes. C'est celui où on va faire l'amour, et c'est celui où on va vaincre nos ennemis. Donc le stade 5, c'est vraiment intéressant d'y aller. C'est comme si on s'arrête au stade 4, on rate un petit quelque chose.
Et on y va tous plusieurs fois par nuit.
Celui où on s'est volé, c'est précisément le rêve lucide.
Ah, c'est après.
Voilà.
Après,
le rêve lucide, c'est le moment où, d'abord, on peut voler sans faire du rêve lucide. Oui. Mais le premier élément, quand on apprend à faire du rêve lucide, c'est une fois qu'on a pris conscience, tiens, je suis en train de rêver, et qu'on a trouvé l'énergie de ne pas se réveiller, on se dit, ok, je vais prendre le contrôle de mon rêve, et la première chose à faire, le premier test, consiste précisément à essayer de s'envoler. C'est ce que va faire mon héros Jacqueline. Il va apprendre progressivement le rêve lucide, il va apprendre à s'envoler tous les soirs.
Alors à ce stade, il faut nous expliquer ce que c'est que le rêve lucide. Ouais.
Alors le rêve lucide, c'est une théorie qui est issue de la découverte d'un peuple, Senoi, en Malaisie. C'était découvert en 1936 par un monsieur qui s'appelle Kilton Stewart, qui est tombé sur un peuple qui passe tout son temps à dormir et à commenter les rêves. Il considère que la vie durant le sommeil est beaucoup plus intéressante que la vie durant l'éveil. Et donc au réveil, tout le monde discute de ce qui s'est passé. Si vous avez rêvé que vous faites l'amour avec une femme, il faut lui offrir un cadeau pour la remercier. Si vous avez rêvé que vous faites l'amour avec une femme et qu'elle a un mari, et que vous l'avez rendu cocu donc en rêve, il faut lui faire un cadeau à lui aussi. Si vous avez rêvé que vous avez fait du mal à quelqu'un, il faut lui offrir aussi un cadeau. Et tout ça, ça va prendre toute la matinée. Et ce peuple qui passe son temps donc et à dormir, et à rêver, et à commenter les rêves, et à maîtriser les rêves, il s'avère qu'ils n'ont aucun problème psychiatrique, aucun suicide, aucune violence, et en fait, ils vont très bien. Et donc, mon héros, Jacqueline, quand il va aller lui aussi en Malaisie, il va les rencontrer, il va recevoir l'initiation du rêve lucide, il va rencontrer une femme, qui s'appelle Chambaya, qui va lui apprendre comment pratiquer ça, et elle va lui apprendre à réussir sa vie d'abord en rêve, pour mieux la réussir après dans la réalité. mais c'est aussi quelque chose, par exemple, que font les sportifs. On leur demande de visualiser une compétition qui réussit, comme ça, ils vont après pouvoir la réussir dans le réel.
Mais visualiser n'est pas rêver.
Alors, ils visualisent, après ils dorment. Quand on dort, on fixe encore plus fort dans le cerveau. C'est-à-dire, vous pouvez visualiser quelque chose, mais vous allez l'oublier. Si vous le visualisez et vous le rêvez, vous allez le fixer plus fort. C'est pour ça que certaines personnes, on discutait tout à l'heure, apprennent des langues en dormant. Ça fixe beaucoup mieux.
Mais on est bien d'accord que dans votre roman, là c'est vraiment un roman, là vous réinventez quand même quasiment tout dans le sixième.
Alors, je pars du 1, 2, 3, 4, 5 de connu pour inventer le sixième. Donc j'ai la mère de mon héros est une spécialiste du sommeil qui s'est mariée avec un navigateur et ensemble ils ont appris à maîtriser leur sommeil. Les navigateurs sont obligés d'apprendre à bien dormir sur des séquences courtes parce que sinon ils peuvent percuter les icebergs. Donc ils font des sommeils de 1h30. Donc ce qui montre bien que ça s'apprend de dormir par petites séquences. Et ils vont tous les deux être passionnés de sommeil et ils vont avoir comme fils Jacqueline qui lui va redécouvrir le potentiel de ses parents. Tout fonctionne là-dessus sur cette idée. On peut un jour on apprendra aux enfants à bien dormir à l'école. Un jour, on apprendra à l'université à bien rêver. Et peut-être un jour, on verra dans des cinémas projeter les rêves. Et c'est pas un pur délire.
Mais cette tribu en Malaisie qui accorde plus d'importance au rêve qu'à la réalité, vous y êtes allé ?
J'étais en Malaisie, je les ai rencontrés. Actuellement, ils ont un petit problème, c'est que je crois qu'ils sont un peu envahis par les touristes et ils ont perdu un peu leur tradition. Je suis même pas sûr que ce qu'a rapporté Clinton Stewart était vrai. Lui-même était hypnotiseur et magicien, donc et écrivain. Donc on peut pas être sûr. Il y a que lui qui a rapporté ces informations. Maintenant, ça a fait rêver toute une génération. Il y a actuellement en Californie des universités qui travaillent sur des machines à provoquer le rêve lucide avec des petites lampes qui se déclenchent quand on rentre en stade alpha. Alors, donc à ce moment-là, on se dit, tiens, si on a une petite lumière rouge dans son rêve, c'est son rêve.
Réexpliquer ce qu'est le rêve lucide. Est-ce que tout le monde peut approcher, pratiquer, fabriquer ce rêve lucide et dans quelles circonstances, dans quelles conditions? Quel rapport, par exemple, avec l'hypnose, qui est plutôt le rêve accompagné? Le rêve lucide, est-ce que ça existe ou est-ce que c'est de la pure fiction que l'on trouve que dans vos romans et dans ceux qui vous ont inspiré?
Moi, j'avais fait un reportage sur ce qu'on appelle les onironautes, donc des gens qui pratiquent le rêve lucide. Maintenant, comme je vous disais, tant qu'on n'est pas allé voir dans le cerveau qu'est-ce qui se passait, il y a que la personne qui raconte « j'ai fait un rêve lucide ».
Vous l'avez fait vous-même puisque vous le racontez, vous dites même oui. C'est un peu fatigant.
Oui, non, j'ai fait un rêve, j'ai fait en tout, en 25 ans, 5 rêves lucides, donc c'est pas beaucoup, mais j'ai fait un rêve où je volais.
Donc c'est un peu le fait du hasard, le rêve lucide alors.
J'ai la volonté quand je me couche d'en faire, maintenant c'est un cadeau, est-ce que je l'ai ou est-ce que j'ai pas. Mais il y en avait un qui était particulièrement amusant, c'est que j'étais en train de parler à un groupe de gens et je leur disais, vous savez, je peux faire un tour de magie extraordinaire. Et si vous voulez, je vous le fais en direct. Et donc dans le rêve, les gens me disaient oh oui, qu'est-ce que tu vas faire? Je peux disparaître. Et à ce moment-là, ils me croyaient pas. Je disais bon, regardez, 1, 2, 3. Et à ce moment-là, j'ouvrais les yeux et je me retrouvais dans mon lit. Puis j'attendais 1, 2, 3. Je refermais les yeux et je me retrouvais dans mon rêve avec les gens qui étaient autour de moi. Et je leur disais, vous voyez, j'ai pu disparaître.
C'est ce que vous avez pensé en réalité, peut-être pas du tout.
Comme je vous dis, il n'y a pas de vérification. En tout cas, c'est ce qui m'a semblé que c'est passé. Oui.
La première conclusion, on n'a pas fini. C'est de savoir si vous avez le choix entre vous êtes fou ou vous êtes un excellent romancier.
Ah, c'est pas moi qui dois le dire. Ce que je sais, c'est que je m'amuse énormément à faire ce métier. Et quand je m'amuse à écrire ça, quand je fais les aventures de mon héros, quand je lui fais découvrir le sommeil, je me dis ce qui est bien, c'est que les gens, en suivant le héros, vont apprendre des choses et vont peut-être pouvoir mieux dormir eux-mêmes.
Mais il y a quand même du vrai derrière.
Ah, il y a 90% de vrai et 10% de roman, parce qu'il faut quand même que je fasse des petits bâtards au réel, sinon je suis pas romancier, je suis juste un scientifique. Et ça m'intéresse pas la position de scientifique. Le scientifique, c'est la personne qui va dire des choses qui bientôt s'avéreront obsolètes. Donc autant inventer des choses qui n'existent pas et qui pourront peut-être arriver. Moi je pense que ma machine, par exemple le cinéma oniroramique qui est décrit à la fin du livre, c'est quelque chose qui est moins délirant que ça n'y paraît. On peut très bien actuellement, avec des capteurs, voir l'activité du cerveau durant un rêve. Donc il suffirait de transformer cette activité, ces taches de couleur, en film. Et on pourrait obtenir une sorte de projection sur un écran de ce qui se passe.
Mais je suis romancier. C'est un cauchemar ce que vous décrivez.
Mais ça dépend.
Cauchemar. On brancherait sur
des films
la tête
d'horreur,
de son épouse,
films...
par exemple, quelques électrodes et on verrait à quoi elle rêve. Sur la télé du salon.
Ça serait un casque dans lequel, ça dépend quel rêve on fait. Mais on découvrirait peut-être des grands artistes.
Contrôle tes rêves.
des grands artistes onirogrammiques qui arrivent à, il y aurait peut-être le festival de Cannes, des meilleurs rêves. Et l'avantage par rapport au cinéma, c'est que ça coûte moins cher à fabriquer.
Je vois, c'est extrêmement troublant parce que avec ce rêve accompagné ou le rêve lucide, vous contrôlez comment vous descendez dans les phases 5 et tout. Pour moi, la nuit, le sommeil, c'est juste pour lâcher prise, pour débrancher, et on a l'impression que c'est encore pire que dans la vie réelle.
Vous faites ce que vous voulez. Si vous avez envie de vous rappeler de vos rêves, vous le faites. Si vous avez envie de faire du rêve lucide, vous le faites. Si vous avez envie de penser à rien, vous le faites. Et si vous avez envie d'ouvrir les yeux et d'aller lire les livres sur les toilettes, vous le faites. On est dans un monde pour l'instant libre. Par contre, j'ai écrit le sixième sommeil pour dire, attendez, vous pouvez faire d'autres choses si vous en avez envie. Ne vous contentez pas juste de fermer les yeux et d'attendre. Peut-être que vous pouvez être attentif aux petits films, à tout ce qui se passe, et peut-être aussi que vous pouvez noter et collectionner vos rêves, parce que souvent on les comprend pas tout de suite, mais on les comprendra plus tard. Mon héros, par exemple, Jacqueline, il utilise une technique qui est la technique de Salvador Dali pour se rappeler de ses rêves. On se met dans un fauteuil, on tient une cuillère au-dessus d'une assiette, et on se laisse dormir, et au moment où on s'endort, au moment où arrive le sommeil le plus profond, ça nous fait lâcher la cuillère qui tombe sur l'assiette, et ça nous réveille, et donc comme ça on peut noter ses rêves. C'est la technique utilisée Dali pour faire ses tableaux.
Moi je voudrais qu'on parle du sixième sommeil, parce que c'est quand même, d'abord c'est votre livre, et en vous lisant, on ne sait pas très bien si c'est une fois de plus de la pure fiction, ou si c'est une espèce d'extrapolation de situations qui ont été rapportées par ailleurs, d'ailleurs par un certain nombre de témoins, y compris notre ami et confrère Philippe Labro, qui en a fait un livre. C'est-à-dire cette situation de coma où l'être vivant n'est plus très bien dans le vivant, n'est pas dans la mort, et est entre les deux. Certains disent avoir des visions extraordinaires, peuvent éventuellement en revenir. S'ils n'en reviennent pas, ils n'en parlent pas, évidemment. Ce sixième sommeil, est-ce que il existe au moins dans ces situations-là, puisque vous expliquez qu'au fond, c'est le moment où on a une vision totale, voire totalitaire de sa vie. C'est-à-dire qu'on se revoit aussi bien bébé à 25 ans qu'on se perçoit dans un futur qu'on n'a pas encore vécu, c'est-à-dire 20 ans plus tard. On a une espèce de vision totale de sa vie. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui peut s'inspirer d'expériences réelles, ou est-ce que c'est totalement inventé par vous ?
Je me suis inspiré notamment du chamanisme et des grandes mythologies et des grandes religions. Dans l'hindouisme, on appelle ça le nirvana. C'est-à-dire c'est un stade où notre cœur bat encore plus lentement et notre cerveau part encore plus loin. Mais là, ce qui m'amusait dans le sixième sommeil, c'était d'imaginer
que le basculement dans la mort serait le nirvana.
Non, c'est juste avant. C'est-à-dire la mort, c'est le nirvana d'où vous revenez pas. Par contre, vous pouvez juste par la méditation, par exemple, par des transes, arriver à être entre le sommeil et la mort, ce fameux sixième sommeil que j'évoque, qui est un endroit où vous allez avoir des expériences très fortes. Jacqueline, il va rencontrer l'homme qu'il va être dans 20 ans. Et cette idée qu'il y a une rupture, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans la chronologie, il n'y a plus de passé, de présent et de futur, mais c'est un endroit où on peut rencontrer le vieillard qu'on va devenir, mais aussi l'enfant qu'on a été, c'est l'idée de départ. Quand j'ai fait le deuxième sommet, je me suis dit, que se passerait-il si j'ai rencontré le futur Bernard Werber, le vieil homme qui va me juger actuellement et qui va me dire... Est-ce que ce que j'aurais dû faire, ce que je n'aurais pas dû faire, et que se passerait-il si je pouvais rencontrer le petit bébé que j'ai été, qui lui avait plein d'ambition pour le Bernard Werber que je suis, et qui peut-être est déçu ou est content. Et j'ai imaginé qu'on pouvait tous recréer ce dialogue entre le vieillard qu'on va être et l'enfant qu'on a été, mais dans un niveau qui est au-delà des rêves, qui est du rêve contrôlé, qui est ce sixième sommeil.
Je ne résiste pas quand même à résumer ce que vous venez de dire là. C'est page 154, il y en a encore 200 derrière. Hein, quand même. C'est, il rencontre celui qu'il était 20 ans avant. Voilà. Alors ça donne ce résumé. Je suis ton toi du futur. Ton toi, Théoï, bien sûr. Hein. Je sais donc forcément des choses que tu ignores, et pour cause. Alors, dans ce cas, dites-moi comment ce monde sera dans l'avenir. Et là, vous répondez, ça je peux pas, à cause de l'effet papillon, n'importe quel petit changement dans ton présent qui est mon passé peut radicalement changer ton avenir qui est mon présent.
Oui, ça c'est le petit côté.
Il est normal.
Retour vers le futur.
Est-ce que vous avez réussi
à le faire vous-même bien.
Est-ce que vous êtes déjà rencontré dans vos rêves?
Ah, bonne question, à laquelle on répondra juste après la pub. On est avec Bernard Werber qui a publié Le Sixième Sommeil, c'est son dernier roman. C'est chez Albin Michel, à tout de suite.
club de la presse d'Europe 1.
Avec vous, Nicolas Poincaré.
Et avec un écrivain qui est plus connu en Corée et en Russie qu'en France, c'est Bernard Werber qui publie le sixième sommeil chez Albin Michel. On continue à parler du sommeil et des rêves. Ève Roger, juste avant la pub, vous demandiez
Est-ce qu'on peut se rencontrer? Est-ce que vous êtes déjà rencontré dans vos rêves? Quand vous étiez enfant, ça on peut le concevoir, mais celui que vous serez plus tard, est-ce que vous êtes déjà croisé?
Puisque c'est ça le sixième sommeil, hein, voilà, c'est la possibilité
oui.
de...
En tout cas, il y a une phrase que j'ai mise dans le livre qui est issue justement de cette rencontre, mais que j'ai eue après avoir écrit le livre. C'est-à-dire, c'est parce que j'ai écrit le livre que j'en ai rêvé. Parce que je rêve en permanence des passages du livre. Et cette phrase, c'est « Celui qui n'a pas voulu quand il pouvait, ne pourra pas quand il voudra ». Et cette phrase qui revient comme un refrain dans le livre, et qui est la phrase de « Saisissez l'occasion quand elle se présente, parce que sinon c'est pas dit qu'elle se représente. Était pour moi, était livrée en rêve. Donc j'utilise les rencontres avec mon futur moi-même comme moyen d'écrire les romans.
Si on dort pas, on devient fou.
Oui, on tient 11 jours à peu près. C'était un supplice sous Staline. Et d'ailleurs, mon héros Jacqueline va se retrouver dans une situation de privation de sommeil.
Mais ça, c'est une vérité scientifique.
Oui, oui.
C'est pas vous qui l'avez inventé.
Non seulement ça, il y a une maladie qui s'appelle l'insomnie héréditaire, dans laquelle les gens, à un parti en certain âge, n'arrivent plus à dormir et meurent. Et parce que toutes nos fonctions, que ce soit nos fonctions de santé, de tous nos lymphocytes, tout est remis en place par le sommeil.
Et les rêves aident à dormir finalement.
Les rêves nous permettent de nettoyer notre pensée et le sommeil nous permet de nettoyer notre corps. C'est pour ça qu'on dit que c'est le dormir est le meilleur médicament pour tout.
Faire l'amour aussi, vous avez l'air de dire.
Faire l'amour est le meilleur somnifère.
Oui, on a bien compris, ça vous intéressait beaucoup. On a bien compris.
Moi, je voudrais revenir
sur le.
Tout le monde est intéressé,
tout le monde est
par,
très
ça.
Intéressé par ça. Je voudrais revenir sur le sixième sommeil pour bien comprendre ce qui, au-delà de la fiction, a sans doute une fonction d'abord parabolique, vraisemblablement, une forme de parabole. Est-ce qu'au fond, le sixième sommeil, ça n'est pas la quête de sens que l'on a tous? C'est-à-dire quand vous allez chercher votre passé pour le réconcilier avec votre présent et imaginer déjà votre futur, ce qui est ça le sixième
exactement.
Sommeil, est-ce que ça n'est pas simplement la recherche d'une vérité qui unifie tous ces moments de vie qui peuvent être totalement incohérents les uns par rapport aux autres et que c'est cette volonté de donner finalement un sens à sa vie, quoi?
Tout à fait, j'adhère à ça. Pour moi, c'est le sens de la spiritualité. C'est-à-dire, la spiritualité, c'est une expérience personnelle de questionnement sur qui on est et ce qu'on va devenir. Et tous mes livres ne parlent que de ça, sur mon propre questionnement. Parce que l'avantage du romancier, c'est qu'il n'a pas à dire des vérités, il n'a pas donné des certitudes, il a posé des questions que vont se poser le lecteur, et c'est le lecteur qui va faire son chemin. Et mon héros, il va évidemment, en accédant au sixième sommeil, il va comprendre pourquoi il est né, et pourquoi est-ce qu'il a à faire
votre
et pourquoi
réponse,
il va mourir.
Au fond, c'est que ce sens-là, on le trouve dans le rêve plutôt que par une activité intellectuelle de jour.
Les deux sont complémentaires, c'est-à-dire nos rêves sont nourris de notre activité de jour. Si vous faites rien le jour, vous n'allez pas beaucoup rêver, vous n'allez pas rêver de trucs très intéressants. Donc il faut les deux. Moi, je crois pas que ne faire que dormir, ne faire que rêver, c'est la solution. Je dis juste, faites attention à ce qui se passe durant le sommeil, c'est plus intéressant que vous ne le croyez. Vous allez passer 30 ans de votre vie, sur une moyenne de 90 ans pour les Européens, 30 ans de votre vie couché, les yeux fermés, c'est pas du temps perdu. Ce temps-là est peut-être un moment où vous pouvez accéder à une forme de spiritualité. Et il existe, par exemple, dans le roman j'en parle, un yoga du sommeil. Et les gens qui pratiquent ce yoga disent, l'avantage c'est que c'est le seul moment où on oublie son corps. Quand vous faites une méditation, il y a toujours un moment où vous avez une petite crampe, où il y a quelque chose qui vous gratte. Mais quand vous dormez, vous oubliez complètement votre corps, vous êtes en paralysie.
Votre slogan, c'est « Devenez onironaute ».
Il faut nous dire ce que c'est que des onironautes.
Onironautes, c'est les gens qui rêvent, et notes, c'est
les explorateurs. Mais c'est vous qui l'avez inventé, le mot?
Non. J'avais inventé thanatonote, mais pas onironote. Ça existe déjà. Par contre, juste par rapport à ce que vous me disiez tout à l'heure sur la mort, je voulais rappeler quand même que dans la mythologie grecque, il semble que les Grecs avaient compris beaucoup de choses, Hypnos et Thanatos sont deux frères jumeaux. Ce qui veut dire quand même que la mort on est peut-être préparé à la mort par le sommeil. Mais le grand avantage du sommeil, c'est que chaque fois on en revient et on a une petite histoire à raconter. Alors que la mort, il n'y a pas de retour, en tout cas pour l'instant, de connu.
Le yoga du sommeil, ça marche comment?
Yoga du sommeil, c'est un peu comme le rêve lucide. C'est des gens qui, avant de s'endormir, se font un petit rituel où ils se préparent à vivre intensément leur rêve et en prendre le contrôle de l'intérieur de leur rêve.
Parce que vous réclamez le droit, Au sommeil lucide.
Ah, non, je propose ça aux gens comme activité. En plus, ça coûte rien. Vous pouvez partir en vacances dans votre tête. Vous pouvez avoir tous les décors que vous voulez. Vous pouvez voler. Vous pouvez faire l'amour à qui vous voulez. Je trouve quand même que c'est un endroit
sans
extraordinaire.
Drogue, hein.
Sans drogue. C'est une drogue que nous fournit notre cerveau, mais qui n'a aucun effet. Il n'y a pas d'accoutumance. Et il n'y a pas d'effet secondaire. Donc, profitez de cette chose extraordinaire. Profitez dès ce soir de la possibilité de dormir et de rêver.
Et Bernard... de faire l'amour.
Et de faire l'amour, c'est ça.
Bernard Weber, je le disais il y a quelques minutes, vous êtes plus lu en Russie qu'en France, en Corée du Sud également, ou ça encore?
Oui, disons que ça, chaque fois je touche plutôt, en parenthèse, le public pionnier ou le public des jeunes. Il s'avère qu'en Russie et en Corée, c'est deux pays qui sont sortis un peu de dictature, et ils sont très intéressés par tout ce qui est nouveau et tout ce qui leur propose des nouvelles voies d'exploration. En France, je crois qu'on vit un peu dans la nostalgie de notre passé, donc il n'y a pas cet appel comme ça. Alors c'est vrai que quand je donne des conférences en Russie, il peut y avoir jusqu'à 10 000 personnes qui viennent et qui m'écoutent leur parler, mais je ne parle pas que de mes livres, je leur parle des voies de recherche et de la science et de la spiritualité, et c'est ça qui les intéresse, je crois.
Et donc sur les 30 millions de livres que vous avez vendus environ, il y en a combien en France, combien à l'étranger?
Oh, je pense qu'il doit y avoir quand même 10 millions en France.
10 millions en France et 20 millions à l'étranger.
Ouais, ça doit être quelque chose comme... Enfin, en fait, je me suis jamais posé la question, vous me le posez comme ça...
Non mais sauf que pas de chance, parce qu'il se trouve que les éditeurs français arnaquent complètement les auteurs sur les ventes à l'étranger, non? Vous seriez américain, vous auriez touché 10 fois plus.
C'est sûr que le statut des auteurs américains est plus... Non, c'est différent, parce que le livre est mieux défendu en France, grâce aux lois qui défendent notamment les librairies et toute la distribution que je soutiens. Maintenant, aux États-Unis, ils ont un système avec des agents qui sont des avocats féroces, qui obtiennent des sommes gigantesques. Mais moi, vous savez, ce qui m'intéresse, c'est juste continuer à faire ce métier, m'amuser et avoir des lecteurs. Après, tout l'aspect financier, c'est un autre aspect à côté. Tant que je peux continuer à faire ce métier dans lequel je m'éclate et dans lequel j'espère que mes lecteurs s'éclatent, je suis content, je réclame pas plus.
Ah bah on peut rester là, mais comme on a beaucoup parlé de rêve ce soir, on pouvait rêver une seconde d'être aussi riche que Bernard Weber.
Enfin, un journaliste qui est devenu riche.
Et votre prochain livre, c'est quoi alors, le sujet?
Ah, pour l'instant, c'est ultra secret, mais j'ai déjà commencé et j'espère que ça vous plaira.
Et cette musique, vous la reconnaissez? C'est la bande originale du film Interstellar, et apparemment, si je vous ai bien lu, c'est une des musiques qui vous permet de rêver, d'écrire,
alors,
et de vous endormir.
C'est copié sur Koyaanisqatsi, et j'adorais Koyaanisqatsi. Quand j'ai entendu cette musique, je me suis dit, ça me plaît parce que je la connais déjà. Mais écoutez Koyaanisqatsi, la musique du film, elle est extraordinaire.
Le sixième roman, c'est donc le titre de... Le sixième sommeil, c'est le titre de votre 21e roman. Merci beaucoup d'être venu nous voir, Bernard Weber. Merci à Eve Roger, Robert Namias et Philippe Gildas.
Merci à vous.